Le thème de ce dimanche, c'est l'appel, la vocation des apôtres en tout cas, mais pas seulement, des prophètes dans l'Ancien Testament avec la figure d'Isaïe. Alors, avec Isaïe, il nous décrit son appel. Et son appel a été précédé par une vision glorieuse de Dieu, hein, assis sur un grand trône, élevé sur un grand trône, bien loin de toute possibilité pour l'homme de le rejoindre, et les pans de son manteau qui remplissaient le temple. C'est quelque chose de vraiment très glorieux. Ce que voit Isaïe à ce moment-là, et ce que verra Pierre d'une autre manière, mais ça revient au même, c'est à travers cette gloire de Dieu, c'est une méditation sur le Dieu créateur. Quand on utilise, on dit Dieu. Dieu, ça ne veut pas... Finalement, on sait ce que ça veut dire, mais ça nous fait pas, ça ouvre pas une contemplation, le mot Dieu. Tout le monde peut l'utiliser et l'utilise dans tous les sens du terme pour qualifier tout et n'importe quoi comme divinité que chacun imagine, Dieu. Mais quand on médite et que Dieu répond, donc quand il nous introduit dans une contemplation, on le voit comme le créateur. Ce moment magique où la création, la matière n'existait pas, mais lui existait et de toute éternité. C'est ce temps qui fait partie de la matière est inapte à remonter jusqu'à lui. Il est l'être premier, la cause de tous les êtres. Tous les êtres sortent de ses mains. C'est ce Dieu-là, ce Dieu incompréhensible pour l'homme. Et ce n'est pas étonnant qu'Isaïe, voit à travers ce pan de son manteau, finalement tout l'univers qui découle de lui et qui arrive là jusqu'au temple où Isaïe a sa vision. C'est quelque chose, une vision glorieuse, plus une vision, mais aussi une méditation glorieuse. Il faut que l'homme qui la reçoit la dépeigne, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut l'expérimenter. Il faut éprouver ce vertige qu'Isaïe et Pierre, après lui, vont éprouver, Paul aussi d'ailleurs en parle, le vertige de l'homme pécheur. Pourquoi dit-il « Je suis un homme pécheur, je ne peux pas t'approcher, éloigne-toi de moi » C'est le moment où l'homme se rend compte à quel point il est dissemblable de son Créateur. Ce Créateur, c'est la source de toute pureté, on ne peut pas l'imaginer, il faut le voir. Et il faut que Dieu donne un coup de pouce à notre méditation, sinon on s'arrête sur le mot. Il faut qu'on éprouve ce vertige. Le vertige est la preuve qu'on est entré dans une contemplation, quelle que soit sa modalité, quelle que soit la manière dont elle se développe devant nous. Parce que là, le cœur est touché, ouvert en quelque sorte, et on constate à quel point on est petit par rapport à ce Dieu qui est si immense, combien on ne le mérite pas, combien ça, tout est beau et bon en lui, cette bonté, on ne la mérite pas. On ne mérite rien qui vient de Dieu, et Dieu pourtant, parce que nous sommes sortis de ses mains, comme l'univers tout entier. Et il nous accueille. Il tourne notre regard vers nous. Il nous parle, il nous adresse la parole. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il nous communique les élans de son cœur et les désirs profonds de son cœur. Donc il y a un tel contraste entre l'impureté humaine, on dit impureté parce que ce qui est pur, c'est d'être conforme à sa fin. Et pour la créature, être conforme à sa finalité, à sa fin, c'est le retour à Dieu. Ce serait d'être comme les anges, les bons anges, ceux qui sont restés fidèles au Seigneur, et d'être dans cette pureté-là, n'avoir que Dieu dans notre cœur, n'avoir que Dieu dans notre intelligence, n'avoir que Dieu dans toute notre vie, qu'il soit notre vie, qu'il s'écoule comme un grand fleuve là, qui part d'un point indéterminé, le moment où tout a commencé dans la création et comme un grand fleuve, tout s'écoule comme le pan du manteau de Dieu et qui remplit tout, qui remplit le temple, mais qui remplit chacun d'entre nous, l'âme de chacun d'entre nous. C'est là, on peut dire qu'effectivement, on se laisse envahir par la transcendance. Et elle implique ce vertige. Et Pierre, à l'écoute de l'enseignement de Jésus et à la vue, bien évidemment, du miracle qui vient de confirmer, eh bien, se trouve dans le même état d'hébétude qu'Isaïe lorsqu'il a cette vision glorieuse de Dieu et des anges. Ce vertige, il est très précieux. Et il s'obtient, je veux dire, bon, il y a la vision qui vient d'un seul coup, qui tombe sur le prophète, comme sur Isaïe, parce que Dieu a décidé de l'appeler à ce moment-là. Et il répond, parce qu'il a reçu cette vision et qu'il comprend combien Dieu est au-dessus de toutes les médiocrités humaines et que tout est impur par rapport à lui. Alors il dit oui, je vais aller prêcher aux hommes qu'il existe un monde de pureté, de lumière, d'amour, de béatitude, tel qu'aucun homme ne peut l'imaginer, et que toi, Dieu, tu viens nous la proposer. Pierre a fait la même réponse à Jésus. Et donc, l'autre façon de recevoir la vision, c'est de méditer la parole de Dieu tous les jours. Et quand nous sommes mûrs, quand les temps sont accomplis pour nous, eh bien le Seigneur nous offre de temps à autre de ces élévations, mais à partir de notre méditation. Il la couronne en quelque sorte, il lui donne une vie, une substance que nos forces ne peuvent pas atteindre par elles-mêmes. Oui, méditons la parole de Dieu pour être attentifs, pour être là quand le Seigneur nous fait de tels dons. De tels dons nous communique une force inébranlable. Il nous communique un attachement à Dieu que la mort elle-même ne peut pas défaire. Isaïe a consacré sa vie au Seigneur à partir d'une telle vision. Et beaucoup de saints témoignent eux-mêmes qu'ils ont reçu au moment de leur appel ces révélations. Jésus appelle les premiers disciples. C'est donc, le contexte est différent d'Isaïe, lui c'est dans le temple, là c'est au bord du lac et c'est très poétique, et en même temps très quotidien et c'est très beau pour ça. C'est au bord du lac, on voit Jésus qui, tranquillement, vient devant Pierre, là au-devant de lui, et puis sans complexe du tout, en toute simplicité, il monte dans la barque et lui demande de s'éloigner un tout petit peu du rivage. Parce que bon, bah, les gens, il y a une confusion, on les crasse partout, vous voyez. Jésus organise sa prédication et en même temps, il l'a fait coïncider avec l'appel des disciples. Jésus est dans la barque. Jésus, c'est la barque, on sait bien que c'est le symbole de l'Église. C'est la barque où nous sommes, c'est la vie qui est la nôtre en tant que croyants. Parce qu'il n'y a pas de vie pour nous qui sommes croyants sans la foi. Il n'y a pas une vie à côté de la foi, une vie où on aurait la foi. Notre vie est une barque, la barque du Seigneur. Et il décide de monter et puis de prêcher. Et nous devons l'écouter, comme plus tard Marie-Madeleine à ses genoux qui écoute sa parole. Et là, vous voyez, c'est ça. Je dirais, c'était vivant, les prédications du Christ. Il y avait donc l'enseignement de Jésus. Mais à chaque fois, il y avait aussi des questions. On le voit bien dans les évangiles. Il y a des groupes qui viennent poser des questions, et pas toujours avec de bonnes intentions. Et il répondait aux questions. Enfin, vous voyez, il y avait toute une animation. C'était pas lui qui faisait un cours à partir d'un sujet qu'il avait préordonné. Bien sûr, c'était ça. Il avait une matière. À chaque fois qu'il allait quelque part, il reprenait une synthèse sur la foi, sur la venue du Messie, sur sa mission et sur les bienfaits de la libération spirituelle qu'il allait leur proposer. Mais en même temps, il y avait tout un aspect de liberté, d'improvisation possible. Surtout quand il y avait beaucoup de monde, et plus il y avait beaucoup de monde, précisément. Alors c'est un peu ça que le pape François avait voulu lancer avec cette année du synode, et qu'il lance, effectivement. Le synode, c'est un lieu de dialogue, nous dit-il, un lieu de communion, où on éprouve, on expérimente la communion. On n'émet pas seulement des idées sur ce que l'Église doit être et faire, mais surtout être dans le futur. Et parmi les synodes qui ont lieu dans le monde entier, hein, il y en a un qui fait bien parler de lui, c'est le synode de l'Église d'Allemagne. Parce que eux, nous, on est encore à Vatican II, eux, ils sont déjà à Vatican XII, et les Allemands. Et donc, ce synode, 86% est revenu sur des thèmes d'ailleurs que régulièrement soulevés par l'Église, les fidèles d'Allemagne. C'est donc le droit pour les prêtres de renoncer au célibat pour se marier et la possibilité pour les femmes d'être ordonnées prêtres. Leur synode d'ailleurs s'était montré également en faveur de l'ouverture du mariage homosexuel, vous voyez, ce genre de choses. Et c'est comme ça qu'on s'adapterait au monde, c'est comme ça que l'Église pourrait contenir les abus sexuels, c'est aussi beaucoup l'argumentation, ils profitent de tout pour amener leur pion en quelque sorte sur l'échiquier synodal. Alors le synode comme ça, vous voyez, tout de suite, on voit bien qu'ils font une pression sur Rome, ça va encore faire des polémiques inimaginables et totalement stériles. Mais quand même, 86% des participants du synode d'Allemagne a voté pour ces deux résolutions là, concernant le célibat des prêtres et l'accès des femmes au sacerdoce. On n'arrête pas d'entendre parler de ça et d'autres choses qui ne sont pas compatibles avec l'Église, avec sa continuité dans le temps, et tout en restant attaché à ses origines, éclairé par ses origines, et son origine c'est Jésus. Eh bien, tout le temps ces polémiques stériles reviennent et ça ne change rien, ça n'avance rien dans la vie de l'Église. Ce qui avancerait, à mon sens, vous voyez, c'est que l'Église ne se prenne pas comme une fin en soi, dans son organisation. Et ça, j'ai toujours vu, même moi personnellement, même dans la congrégation dont je fais partie, dans nos réunions, nos chapitres, ce qui correspond aux synodes, si vous voulez, enfin, un détail près, le détail des décisions, mais il y a toujours, finalement, on s'enlise toujours dans des problèmes intramuros. Et les synodes risquent de faire souvent la même chose. Les diocèses s'enlisent dans leurs problèmes personnels, dans leur vision personnelle, et ce qui nous semble à court terme le plus efficace. Il y manque à tout ça la contemplation. Il y manque ce qu'Isaïe a vécu, ce que Pierre a vécu. Je veux dire, c'est ça qui fonde l'Église et c'est ça qui la restaure, qui la réforme au cours du temps. Et les grands réformateurs, les grands saints de l'Église, eh bien, ou des ordres religieux, l'ont très bien su. Jésus est dans la barque de l'Église. Et cette Église, cette barque, elle est conduite par Pierre. Donc, eh bien, il faut revenir dans cette vision de Dieu dans la barque. Pour vouloir réformer l'Église et même pour animer et participer à un synode de façon efficace. Il faut avoir vraiment les intérêts de Dieu à cœur. Est-ce que, réunir une foule immense dans l'Église sans finalement leur faire vivre la foi à ces hommes et à ces femmes, est-ce que ça sert à grand-chose ? À rien. En revanche, ce qui servirait, eh bien, c'est que dans l'Église, l'Église soit ce lieu de contemplation, d'accueil de Jésus, cette barque, mais qu'il ne soit pas vide, une barque sur laquelle Jésus soit là. C'est vrai qu'il y a des moments où Jésus dort sur le coussin alors que c'est la tempête, mais il est là. Et il faut être attentif à cette présence. Alors, demandons au Seigneur aujourd'hui pour la semaine, cette méditation qui puisse déboucher un jour sur une vision, sur le fait et nous entraîner comme par un torrent dans un vertige immense. Demandons à Dieu de nous faire éprouver le vertige de la foi.